RMC.
After Lyon.
Le podcast
Gilbert Bribois.
Chers supporters de Daniel Bravo et de Pierrick Valdivia, bienvenue dans le podcast After Lyon. 15 minutes de débat, comme toutes les semaines consacrées à l'actu de l'OL. Avec aujourd'hui coach Courbis, salut Roland.
Salut les amis.
Et avec Edouard G en direct de Lyon, salut Edouard.
Salut coach, salut Gilbert, bonjour
salut
à tous.
Salut Doudou.
Et des débats au programme comme toutes
salut,
les semaines. Notre fameuse évaluation de l'after après le match face à Nice. Et puis, nos débats, oui. Comment expliquer le trou d'air niçois, l'écroulement alors que l'équipe de Lyon menait 2-0. Quelle est la responsabilité de Peter Bosz dans tout ça? On pourrait aussi se poser la question de savoir si malgré tout, faut pas positiver, parce qu'avant l'écroulement, il y avait eu plutôt un bon match pour les Lyonnais.
Ah bah oui.
On va en débattre tout de suite dans le podcast After Lyon, c'est parti. Edouard, quel a été ton taulier de ce match, ton taulier lyonnais?
Alors, déjà, j'ai failli vous faire le podcast le plus court, parce que j'avais marqué sur ma feuille « incompréhensible comme match ». Donc après, je ne savais pas si on pouvait être un quart d'heure, tellement c'est assez incroyable. Alors le taulier, j'hésite entre l'un des buteurs, Oussem Aouar, pour l'ensemble de son œuvre, parce que c'est vrai qu'il est monté en puissance tout au long du match. Et puis mine de rien, c'est son quatrième but sur les cinq dernières rencontres. Donc une belle montée en puissance pour quelqu'un qui était un petit peu en difficulté en début de saison. Donc il y a ou lui ou l'aspect offensif ou Maxence Caqueré, bien évidemment. Vous allez me dire encore c'est mon chouchou, mais bon, métronome, chef d'orchestre, il progresse, je trouve, beaucoup. Et lui-même, en conférence de presse cette semaine, l'a dit qu'il perd moins de ballons, qu'il progresse beaucoup. Et puis vraiment, il oriente le jeu au milieu. Donc vous avez le choix entre, de mon côté, quelqu'un plutôt d'offensif qui a marqué, plutôt quelqu'un de plus régulier, plus métronome, plus chef d'orchestre, Maxence Caqueré.
T'es d'accord, Roland?
Oui, je mets Aouar en premier aussi.
Bon. Aouar, on l'a assez souvent quand même allumé dans ce podcast.
Ouais, mais justement.
Là, ça fait quelques temps, on va dire que c'est un retour au premier plan, Edouard.
Oui, voilà, c'est pour ces... Il y a ce match où il a fait des bonnes choses. Et puis surtout, voilà, c'est des progrès incessants depuis les derniers matchs. Parce que rappelons qu'il a marqué dans le derby, il a marqué un doublé face à Bromby, il a marqué à Prague, là, il marque à Nice. Et puis souvent, des matchs, des buts importants, même si le but de Nice, le 2-0, au final, n'est pas important. Mais en tout cas, dans l'ensemble, c'est quand même des buts importants.
Un boulet, Edouard?
Le boulet, c'est facile, ouais. Malheureusement pour lui, c'est Tino Kadewere, parce que voilà, un petit peu comme les 45 minutes à Prague, mais lui, il avait été sorti du terrain dès la mi-temps par Peter Bosz en numéro 9. Là, testé sur le côté droit, il a tout manqué, les actions et puis son tacle final pour au final ce carton rouge qui quelque part change tout. Parce qu'après, on peut aussi mettre Emerson en boulet, mais le premier boulet, c'est quand même Tino Kadewere quand même.
Bon, on est tous à peu près d'accord.
Oui.
Là-dessus. Ouais. Allez, enchaînons et en revenons sur le scénario de la rencontre, bien sûr, et spécialement sur les 10 dernières minutes. Alors, Roland, tu as un peu d'expérience dans le foot.
Un petit peu.
Je ne rappelle pas le nombre d'années, mais il y a quelques décennies d'expérience dans le foot. Une équipe comme ça qui mène 2-0 et qui s'écroule, est-ce que tu as déjà vu ça? C'est marrant parce que Hilton commentait le match, tu l'as entraîné, Hilton, et j'ai l'impression qu'il t'a piqué un truc. Parce qu'à 2-0, Hilton, il dit « Attention, 2-0, c'est le pire score. Parce que si t'encaisses un but, derrière, c'est la panique. »
Non, oui, c'est presque ça. 2-0, c'est le pire score. Le pire score, c'est quand tu as 2-0 et que ça vient de
2-1.
Voilà. Parce que, sauf si c'est à la dernière minute, tu regarderas dans les stats, très souvent, ce n'est pas le score final. Tu as une équipe, malgré que le continue à mener, mais qui a pris un coup de marteau sur la tête et qui commence à douter. Et tu as une équipe qui était en train de mener 2-0, qui avait pratiquement ce match presque perdu, mais qui retrouve l'espoir. Donc c'est sûr qu'à 2-1, on pouvait évidemment penser que s'il allait y avoir un but dans ce match-là, on ne pensait pas à 2. Mais ça allait être plutôt le but du 2-2 que du 3-1.
Bon, voilà. Donc, imaginez-vous. Écoutez tes causeries avec attention. Oui, Roland.
C'est la première fois dans l'histoire de l'OL qu'en menant 2-0 à la 80e, ils perdent 3-2. Et la dernière fois en Ligue 1, c'était en 1985. C'était à Marseille-Brest où, pareil, les Marseillais étaient mis 2-0 à la 80e.
Par contre, c'est quelque chose de hyper rare en 10 minutes. Par contre, entre la saison dernière, cette saison et tout, les 3-2, les 4-3, c'est quand même assez souvent, non, Doudou?
Ouais. Depuis le début de la saison, 8 points perdus par les Lyonnais après la 80e minute. Vous imaginez, 8 points.
Ça te laisse quand
même. Il y en a 16, ça fait 24. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie différence. Mais surtout hier soir, quoi, en fait. Parce que, vous savez, je vous ai déjà dit, le podcast, je le prépare au fur et à mesure un petit peu du match. Et puis, je notais des petites choses. Et jusqu'à la 80e, je disais, voilà, c'est équilibré, c'est posé. Enfin, et on a peut-être
l'année dernière, excuse-moi de te couper, Les Niçois, ils ont quand même bousillé la dernière journée. Ils empêchent Lyon d'être tout simplement troisième.
Oui, et puis si on prend Christophe Galtier, souvenez-vous du 2-0 de Lyon qui met 2-0 face à Lille. Le but de Barak Elmaz juste avant la mi-temps, ça fait 2-1. Puis au final, qui gagne à Lyon 3-2, c'est Lille. Et puis là, c'est le titre pour les Lillois. Et puis les Lyonnais qui laissent aller le titre. On était le 25 avril dernier. Donc que ce soit Nice ou Christophe Galtier, ils savent faire des bons mauvais coups aux Lyonnais. Mais ce scénario, franchement, je l'ai revu trois fois. J'ai revu les trois fois les 10 dernières minutes. Je comprends toujours pas ce qui a pu se passer, quoi, en fait, entre la rentrée théorique de Thiago Mendes qui doit remplacer Tino Kadewere, mais le temps que le changement se fasse, Tino Kadewere fait ce carton rouge et est exclu. Derrière, il doit rentrer, mais il y a le penalty, le ballon qui doit sortir à un moment donné. Le changement Diomandé à Aouar à la 90e minute, l'action, le contrôle manqué de Claude Maurice qui finalement se transforme en passe décisive pour le Niçois. C'est un alignement de planètes, mais franchement incroyable pour cette rencontre. Mais... Et franchement, j'ai essayé de passer presque mètre par seconde par seconde l'image, j'arrive pas forcément à comprendre. Alors, c'est vrai que Maurice, il est abandonné par Mendes et puis Cacré sur cette dernière action. Mais bon, il y a quand même vraiment, c'est assez incroyable.
Alors,
c'est inexplicable cette fin de match.
Évidemment, Doudou, qu'on peut dire que Peter Bosz est mal inspiré. Mais au lieu, si tu veux, moi, de m'attarder avec Peter Bosz mal inspiré, je préférerais plutôt parler de Galtier bien inspiré. C'est-à-dire, on a un Galtier qui est à côté du sujet dans ses choix, dans sa composition d'équipe, dans ce qui se passe sur le terrain. Et après. Ben, on a un Galtier qui rectifie avec les changements, et notamment le dernier changement, c'est celui qui marque le but de la victoire. Comment il s'appelle, le jeune Niçois?
Ah oui, le...
Guessant.
Oui, c'est ça, Guessant.
Alors là, on appelle ça pour couronner le tout. Tu vois, c'est pas seulement que tu reviens de 2-0 à 2-2. En plus, il y a la possibilité à la dernière minute de marquer par celui que tu as fait rentrer il y a quelques minutes là. Ben là, c'est pratiquement... La rectification parfaite de Christophe, qui lui-même l'a déclaré à la fin. Il était très content, d'ailleurs, il montrait avec l'index sur le front, l'air de dire, bon, allez, le cerveau n'était pas en forme au tout début, mais il a quand même fonctionné à la fin. Et c'est vrai que ça, c'est une victoire de Nice, mais... Qu'est-ce qu'il faut faire là quand c'est comme ça? Il faut féliciter le joueur qui rectifie les erreurs qu'il a pu faire dans ses mauvais choix en lui disant bon, il aurait pu faire les mêmes choix au tout début, par exemple la titularisation d'Atal, ou se dire ben non, écoutez, c'est un bon coaching, il a réussi à rectifier ce qu'il fallait rectifier. Donc là, je suis à 50-50.
Oui, en sachant qu'on aurait pu imaginer des changements un peu plus tôt, quoi, parce que, et surtout, Peter Bosz l'avait dit, l'enchaînement du match le jeudi soir à Prague, avec le match à 13h à Nice le dimanche, qu'il y avait peut-être les jambes qui allaient être fatiguées. Alors, absolument. Bien noté qu'il n'a jamais pris cela comme un handicap ou une excuse avant ou après sur le résultat. C'est juste, il a insisté sur cette rapidité d'enchaînement pour la dangerosité par rapport aux éventuelles blessures. Donc, faut bien, au niveau de Peter Bosz, il faut bien rectifier ce côté-là. Mais quand surtout lui avait ça en tête, il a mis tout au point pour que l'aspect invisible de la préparation se passe bien. Et pourquoi, quand tu mènes 2-0 à la 68e, il n'y a pas des changements à la 75e. C'est un petit peu ce qui remonte un petit peu de nous quand on voit ça, même si je n'aime pas trop attaquer les compositions d'équipe parce qu'on n'est pas au quotidien à l'entraînement. Donc pourquoi est titularisé un tel plutôt qu'un autre? C'est forcément l'entraîneur qui a raison, parce que je n'ai jamais vu un entraîneur qui mettait le joueur le moins bon sur le terrain. Mais là, ces changements, alors que le match est fait, l'emprise est là. Pourquoi il n'y a pas eu ces changements? Ça, c'est peut-être la petite incertitude. Et puis, on en arrive aussi à cette électricité qu'il y a dans l'équipe, parce que, mine de rien, c'est le sixième rouge depuis le début de la saison, hein, 5 en Ligue 1 et 1 en Europa League. Il va falloir aussi gérer un petit peu tout ça. Donc, il y a eu Léo Dubois, Bruno Guimaraes, Karl Toko et Cambi, et puis Anthony Lopez qui ont pris la parole, mais sans faire trembler les murs, hein, dans le vestiaire après le match, pour dire voilà, il faut qu'on se reconcentre et que mentalement, on passe un cap. Parce que voilà, il y a un cap à franchir, hein, parce que 8 points perdus après la 80e minute, ça fait beaucoup. Hein.
Ah ben oui, c'est vraiment dommage, parce que quand tu vois où pourrait être Lyon au classement, je dis pas de récupérer les 8 points, mais 3 ou 4 de plus, ça serait quand même un Lyon bien classé.
Alors, est-ce qu'il faut, malgré tout, est-ce qu'il y a matière à positiver quand même? Je veux dire, parce que d'ici la 80e, jusqu'à la 80e, on se dit, mais superbe équipe de Lyon,
oui,
avant l'écroulement.
Et pas seulement pour ce match-là. Trois jours avant aussi, donc on a quand même un Lyon avec notamment Paqueta. Alors, c'est vrai que on a eu les débats en ce qui concerne Paqueta. Paqueta qui est arrivé donc en retard, et qui évidemment est rentré à la mi-temps, parce que là c'est le contraire qui s'est passé dans le match d'avant. Alors c'est sûr que si au niveau de la discipline tu arrives avec une minute de retard dans la causerie d'avant-match, tu n'es pas titulaire. Déjà il faut que tu souhaites qu'il n'arrive pas à 3 ou 4 avec une minute de retard. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire avec Kadewere? Parce que si c'est grave d'arriver avec une minute de retard, ok, mais c'est bien, il y a une discipline, elle est là pour permettre à ce groupe de bien tourner. Mais cette faute aussi stupide qui te laisse tes coéquipiers et ton équipe,
oui, après, Roland,
à 10.
Si c'est... on est en finale de Coupe d'Europe, je ne suis pas sûr que Paqueta soit sur le banc. S'il arrive une minute en retard, la causerie.
Mais là on est dans la partie où on construit la saison. Je trouve que voilà, c'est logique qu'on envoie des messages.
Après, oui, tout à fait.
Éventuellement, c'est vrai que si ça se passe le 25 mai sur une finale, peut-être que ça se passe pas
si
comme ça.
Si t'en as 4 qui arrivent en retard des titulaires, tu fais quoi?
Mais justement. mais par contre, si je suis Kadewere, je m'inquiète, parce que si on est puni quand on fait des conneries, c'est là la grosse. Hein.
Alors, en sachant que Lucas Paqueta est que le deuxième joueur arrivé en retard sur un petit événement interne comme ça, hein, donc c'est pas lâche au niveau des voilà, c'est pas régulier, hein, des récurrents. Donc il faut vraiment remettre l'église au milieu du village à ce niveau-là.
Edouard, sur Peter Boss là, toi t'as l'impression qu'il y a une sorte de fin d'état de grâce quand même, ou alors c'est juste... Parce qu'il a été quand même après le match assez fataliste en disant bon, mais c'est le foot, ça peut arriver.
Oui, et puis après, ben, il rappelle le classement, hein, où les Lyonnaises, finalement, sont à 5 points de Lens qu'ils reçoivent, donc est deuxième qu'ils reçoivent samedi. Ils sont 16 points, voilà, il reste encore 27 matchs, 80 points à prendre. Mais mine de rien, c'est quand même la première fois depuis Jacques Santini en 2000-2001 que les Lyonnais ont aussi peu de points. Jacques Santini avait pris 15 points sur 33, là on en est à 16 sur 33, ça fait quand même qu'une petite moitié. Alors, ce n'est pas forcément la fin de l'état de grâce, mais je parle toujours de cette note artistique d'un côté qui est bonne et de la note comptable qui est moyenne, eh bien on reste dans le moyen. Alors on reste convaincu au niveau des fans lyonnais, de tous les suiveurs, ben, qu'il y a du jeu, il y a un projet de jeu, donc à un moment donné le travail va payer. La Coupe d'Europe pour l'instant, ben, la copie est parfaite, donc ça rend un petit peu l'atmosphère un petit peu plus légère. Et puis avec toute la rigueur, tout ça, ça va fonctionner. Mais il faut franchir des caps. Et puis maintenant, le problème, c'est que là où on pouvait construire bien la saison, notamment avec une victoire à Nice, eh ben, c'est une course un petit peu à handicap, parce que chaque match, c'est pour grignoter des points sur ceux qui sont devant. Et c'est qu'on sait souvent que ce genre de course à handicap, psychologiquement parlant, ça peut prendre un peu de mental à certains. Voilà, c'est là où ça peut être un peu gênant.
Faudra maintenant, footballistiquement, bien évidemment, et arithmétiquement faire une série de 3 ou 4 victoires d'affilée. Ça, c'est sûr et certain. Mais Lyon, vu son effectif, si ils sont épargnés par les blessures et aussi les cartons rouges, a quand même un effectif justement pour faire un bon championnat. Donc là, moi, je suis, malgré cette défaite qui est quand même assez bizarre, je suis quand même très confiant pour les Lyonnais.
Merci Edouard, merci Roland. C'est fini pour aujourd'hui, vous le savez.
Et je voulais juste faire une dédicace, Gilbert,
petite dédicace.
À Eric, parce que lui aussi fait partie des supporters qui sont confiants dans le jeu de Peter Bosz. Je vais parler d'Eric, un Villeurbanais qui est en République tchèque donc, et qui nous écoute sur le podcast et qui vous salue. Donc on nous écoute aussi aux États-Unis.
Et, voilà. on leur donne rendez-vous à tous ces auditeurs du podcast After Lyon lundi prochain. Bye bye.
RMC. Bye.
After Lyon.
Le podcast
Gilbert Bribois.